I don't want something that's shiny. If it ain't got you, then it's gonna bite me. Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, bah ça va. Ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver après 2 semaines pour la suite de l'étude du livre d'Habacouc. On est déjà à la moitié du chemin, on est au chapitre 2. Dans l'épisode passé, on a fait une introduction au livre d'Habacouc, qui est en fait une analyse de tout le chapitre 1. Ce qu'on peut comprendre, ce qu'on doit en tirer, comme utilisation quotidienne, si je peux dire ça comme ça, pourquoi c'est toujours d'actualité, etc. Pour une version plus détaillé, je vous invite à écouter l'épisode précédent. Et pour les nouveaux et ceux qui ne l'ont pas écouté, je vais vous faire un petit résumé en vraiment une minute pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Pour tous les nouveaux, bienvenue dans Soul for Soul, votre podcast chrétien où l'on parle de religion, de spiritualité et de la vie de façon générale. Dans l'épisode précédent, comme je l'ai dit, on a étudié le livre d'Habacouc au chapitre 1, qui est un livre de l'Ancien Testament très court, qui ne fait que 3 chapitres. Dans ce premier chapitre, parmi les idées que nous avons vraiment mises en avant, il y a le fait que quand, dans votre vie de tous les jours, ou autour de vous, vous constatez quelque chose qui vous dérange, ou quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous trouvez injuste, ou quelque chose que vous pensez... Voilà, c'est-à-dire vous constatez une chose qui vous dérange profondément, vous avez le droit, vous pouvez demander à Dieu des explications. Vous pouvez demander à Dieu pourquoi est-ce que c'est comme ça. Vous avez une sorte de légitimité à demander à Dieu cela. D'autant plus que Dieu, c'est votre Père, c'est une personne qui vous veut du bien, c'est une personne qui vous aime sans raison, de façon inconditionnelle et qui vous aime vraiment tel que vous êtes et qui fera toujours les choses pour votre bien. Donc vous avez vraiment une légitimité à aller lui demander qu'est-ce qui se passe et à avoir des explications. Lorsque vous allez demander à Dieu, et ça c'est la suite du coup des versets dans ce premier chapitre, Dieu va vous apporter tôt ou tard une réponse. Tôt ou tard, il vous apportera une réponse. Et lorsqu'il vous apportera cette réponse, il est très probable qu'elles ne correspondent pas forcément à vos attentes, mais d'une façon ou d'une autre, elle vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous et elle vous permettra de mieux avancer dans votre foi. Parce qu'avec le livre d'Habacouc, on voit aussi que la réponse que Dieu nous donne, parce qu'il va donner une réponse, elle n'est pas forcément évidente, elle n'est pas forcément très compréhensible, elle n'est pas forcément la réponse à laquelle on s'attendait, mais elle nous éclaire. Dans tous les cas, elle nous éclaire. Et ensuite, lorsque on a encore des questions par rapport du coup à la réponse que Dieu nous apporte, on peut continuer le dialogue, on peut continuer de poser des questions, on peut ne pas être satisfait de cette réponse et continuer à chercher à comprendre tout en comprenant et en acceptant et en étant sûr et certain que les plans que Dieu a pour nous sont les meilleurs plans. Ce sont vraiment les meilleurs plans. Et du coup, Ça rejoint vraiment la question de la foi. Ça rejoint vraiment la question de est-ce que je suis prête à m'abandonner totalement au plan de Dieu. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 5 du coup, donc l'épisode qui a précédé l'introduction au livre d'Habacouc, c'est pas facile de s'abandonner totalement au plan de Dieu. Surtout lorsque on sait que Dieu est une entité qu'on n'a jamais vue, avec qui le contact n'est pas forcément évident. Dieu n'est pas forcément une personne physique et tangible avec qui l'on peut parler et avoir des réponses tout de suite, tout le temps, comme avec nos parents par exemple. Il faut vraiment rentrer dans un certain niveau de relation avec Dieu pour obtenir cela. Et même quand on est dans un certain niveau de relation avec Dieu, c'est pas toujours évident. Mais la foi nous demande quelque part, nous pousse à s'attacher à ça. Parce que la foi, c'est avoir la certitude que les choses que tu n'as pas encore vues existent. C'est la profonde conviction que finalement, les choses que tu n'as pas encore vues vont arriver. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans le chapitre 2 du livre d'Habacouc. Comme à chaque fois qu'on essaye de faire des petites analyses ici, je vais commencer par vous lire le chapitre 2 Je vais lire le chapitre 2 en version Louis II, parce que la Bible a plusieurs éditions, si je peux dire ça comme ça. C'est exactement le même contenu, c'est le même fond, mais les mots diffèrent d'une époque à une autre, en fonction de si la Bible a été écrite il y a très longtemps ou pas. En général, j'ai tendance à lire la Bible catholique Crampon de 1923, qui diffère un tout petit peu au niveau des mots, parce qu'il y a des français un peu plus soutenus que la Bible en français courant ou la Bible Louis II. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire la version Louis II. Habacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes ? On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » Jusqu'à quand ? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie au milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit dans une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie sourira ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effraieront. Parce que tu as répandu le sang des hommes, et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Fin de lecture. Alors déjà, ce que j'aime dans les textes de la Bible de façon générale, c'est que après une première lecture, tu te dis juste un big, hein, avec un point d'interrogation à la fin, vraiment le H-E-I-N avec un point d'interrogation à la fin, parce que c'est pas... En fait, non seulement c'est pas clair, mais non content d'être clair, il y a la question de qu'est-ce que ça m'apporte. Parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il faut comprendre que finalement, le livre d'Habacuc, comme tous les écrits de la Bible, ce sont des textes qui sont d'actualité. Habacuc, qui écrit et qui entend les paroles du Seigneur, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est toute personne qui cherche à rentrer en contact avec Dieu et qui cherche à avoir des réponses à ses questions. Donc, finalement, tout ce que dit Dieu, d'une façon ou d'une autre, est encore d'actualité. On peut encore en puiser quelque chose qui va nous nourrir pour cette semaine qui commence, enfin pour ces deux prochaines semaines, puisque c'est dans deux semaines qu'il y aura un autre épisode, mais quoi qu'il en soit, quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous aider, qui va nous faire du bien, et ça, c'est super intéressant. Donc si on doit faire une petite analyse, je vais essayer de ne pas faire une analyse verset par verset, parce que au-delà du fait que ça prenne du temps, je pense qu'on n'est pas vraiment dans de la théologie ici, et le plus important, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que les écrits peuvent nous aider dans notre vie quotidienne. Et en analysant verset par verset, ça fait plein d'idées, ça fait plein d'informations en même temps, et je trouve que des fois, il y a du mal à puiser l'essentiel, en fait. Donc je vais vraiment essayer de regrouper par idée, et même si je fais verset par verset, faire de la façon la plus cohérente possible pour ne pas qu'il y ait trop d'idées qui se chevauchent en même temps. Parce que c'est ce que je me reproche un peu à l'épisode précédent. Je trouve que l'épisode est lourd en informations, en fait. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et on m'a dit que non. On m'a dit que non. Du coup, à vous de voir. Mais par souci de compréhension, je préfère faire comme ça. Donc, quand le chapitre commence, Habacuc dit, donc verset 1 au verset 4, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Ce qui est vraiment hyper intéressant dans ce début, c'est que Habacuc était à son poste et il se tenait sur la tour. De prime abord, on peut se dire que, avec une petite contextualisation, comme on a vu au chapitre 1, on a Israël qui a des ennemis qui sont les Chaldéens. On comprend pas pourquoi les ennemis ce sont les plus forts alors qu'ils ne méritent pas. Et puis du coup, ils s'apprêtent à venir nous tuer, etc. Et donc, on peut se dire que Habacuc, il se tient sur la tour parce qu'il veut pouvoir voir l'attaque arriver. On va dire ça comme ça. Il veut pouvoir voir les ennemis arriver, prévenir les gens avant que... Voilà. Mais en même temps, il faut voir que du coup, dans l'image de la tour, il y a cette idée de tu es haut et tu vois venir les choses de loin. Et la tour, c'est un peu le parallèle avec la montagne. Dans la Bible, lorsque on a des personnages qui veulent prier et qui veulent être en connexion avec Dieu, qui veulent se rapprocher de Dieu pour mieux entendre les choses, ils vont s'élever. Ils vont s'élever. En général, c'est une élévation du coup physique, c'est-à-dire que ils vont être sur une tour, ils vont être sur la montagne, ils vont être sur les monts, M-O-N-T, et du coup, ils vont s'élever pour mieux, on va dire, pour être dans les conditions, on va dire les bonnes conditions, pour pouvoir mieux rentrer en dialogue avec le Seigneur. Et vraiment, comme je vous ai dit, plus tu es haut, plus effectivement, tu as une vue d'ensemble sur la chose. Plus tu vois loin, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la montagne, la tour, c'est le lieu où tu vois le moins de détails. C'est le lieu où tu vois le moins de détails. Tu as une vision globale de la chose, mais tu vois le moins de détails. Et souvent, lorsque les personnes cherchent à s'élever spirituellement pour entrer en contact avec Dieu, elles vont vouloir avoir l'idée globale. Et ensuite, à partir de l'idée globale, trouver les détails. Alors que ça ne marche pas toujours comme ça. Ici, on voit aussi que Habacuc, il veillait. Parce que quand il finit de dire qu'il était à son poste et qu'il se tenait sur la tour, il dit « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Du coup, c'est comme je vous ai dit, tu t'élèves pour mieux recevoir les paroles de Dieu. Tu t'élèves pour mieux recevoir les paroles de Dieu. Et très souvent, dans la vie quotidienne, lorsque tu pries et que tu as besoin de certaines réponses de Dieu, il faut que tu mettes certains éléments en place pour être élevé et mieux recevoir la parole de Dieu. Mais c'est pas forcément une élévation physique. Ça peut très bien être juste une élévation spirituelle et c'est largement suffisant. C'est-à-dire le fait de chanter, de te mettre en action de grâce, de te mettre à prier, de te mettre vraiment dans le lieu secret, dans ta chambre, tranquillement, loin des distractions, loin de ton téléphone, pour pouvoir bien prier et bien te concentrer sur ce que tu veux demander et ainsi être tout de suite pour bien entendre les réponses. C'est ça. Et il y a vraiment cette idée de veiller pour voir ce que Dieu va te dire. Parce que parfois, ce qui fait défaut, compris, là je fais une grosse généralité, donc ce qui fait défaut, compris, c'est qu'on n'est pas assez patient. On n'est pas assez alerte. On attend une réponse, on pense plus ou moins savoir comment est-ce que la réponse va venir, et lorsqu'elle ne vient pas comme ça, on n'est pas attentif en fait à ce qui se passe autour de nous. On ne cherche pas forcément à veiller pour voir ce que Dieu va nous dire. Et je pense que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu et que vous attendez du coup une réponse, il faut vraiment que tous vos signaux, si je peux dire ça comme ça, tous vos sens en tout cas, soient vraiment en alerte pour que vous puissiez ne pas passer à côté. C'est un peu comme avec la parabole des vierges folles dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a une parabole que Jésus va raconter avec du coup des vierges qui, dans mon souvenir, doivent attendre leur mari. Et du coup, tu en as qui vont venir avec des bougies et le nécessaire pour pouvoir voir dans le noir, et d'autres qui vont venir mais avec pas assez, et donc il y aura un moment où ils vont vouloir demander aux autres de leur, c'est-à-dire quand le groupe de celles qui n'ont pas été prévoyantes ne va plus avoir de lumière, et vont demander à l'autre groupe de leur passer de la lumière. Je sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas des bougies, de l'huile pour pouvoir elles aussi avoir de la lumière, et elles vont pas vouloir parce que elles ne veulent pas laisser passer leur mari en fait, elles veulent pas gratter cette occasion. Et c'est un peu pareil avec nos relations avec Dieu, si je peux dire ça comme ça. Lorsque vous n'êtes pas assez préparé, lorsque vous n'êtes pas assez prévoyant, vous pouvez passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Vous pouvez passer à côté du message que Dieu a pour vous parce que vous n'avez pas été assez prévoyant, parce que vous n'avez pas été assez à l'écoute, parce que vous n'avez pas été assez regardant, parce que vous n'avez tout simplement pas veillé. Et c'est très dur de veiller, parce que veiller, ça te demande d'avoir une sorte de concentration pro max pour vraiment ne pas rater la réponse. Parce que finalement, la réponse, on ne sait pas comment elle va venir. On ne sait pas à quel moment elle va venir, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elle va venir. On ne sait pas si elle va venir par l'intermédiaire d'une personne, par quelque chose que vous allez entendre, par... On ne sait pas comment elle va venir, la réponse. Et du coup, c'est vraiment ça. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, je pense qu'il faut vraiment se focus en fait sur le fait que vous voulez une réponse. Et je pense que cette détermination à vouloir à tout prix obtenir une réponse, ça va jouer aussi dans la venue de la réponse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La suite dit, du coup, c'est pas dedans, mais la suite. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Donc, on comprend que parce que Habacuc était dans les... C'est-à-dire, il réunissait les conditions pour recevoir et entendre la parole de Dieu, il a entendu. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on ne sait pas si la réponse a été directe, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a répondu parce que Dieu répond toujours à ceux qu'il appelle. Dieu répond toujours à ceux qui l'appellent. Si tu cries le nom de l'Éternel, il finira toujours par te répondre. Peut-être pas aussi rapidement que toi tu le souhaites, mais il te répondra au bon moment, au bon timing. Et du coup, Dieu va lui répondre et lui dire d'écrire la prophétie et de la graver sur des tables afin qu'on la lise couramment. Bon, il y a des différences de traduction. La vie seconde dit « afin qu'on la lise couramment ». Je sais qu'il y a des bibles catholiques qui disent que « afin que celui qui la lit puisse courir ». C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une petite nuance, mais dans les deux cas, ça revient au même. Le fait qu'on écrive la prophétie, c'est vraiment l'idée que la prophétie soit écrite, gravée, de manière à durer, afin de pouvoir être conservé et lu. Parce qu'il s'agit en fait de choses prochaines et futures d'une portée immense. Parce que c'est une prophétie du coup. Et donc, il faut que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Afin qu'on la lise couramment, c'est un peu l'idée de... Tu écris la prophétie et tu vas la relire pour te rappeler qu'elle existe et qu'elle arrivera. Qu'elle existe et qu'elle est certaine, qu'elle est vraie. Alors que l'idée de afin que celui qui lit puisse courir, c'est plus l'idée de tu vas lire, tu vas écrire et tu vas la répandre au plus grand nombre. Tu vas la partager, tu vas faire courir la prophétie en fait pour lui donner plus de portée. Dans tous les cas, c'est bon à prendre. Mais vous voyez qu'il y a une petite nuance. Et ainsi, on continue, Dieu continue en disant « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Parce que, en effet, la prophétie, et c'est ce qui est intéressant avec la prophétie, c'est que la prophétie s'accomplit. La prophétie n'a pas de problème. Si Dieu a décidé quelque chose pour toi et qu'il a prophétisé quelque chose sur ta vie, quel que soit le temps que ça va prendre, ça va arriver certainement. Ce que j'aime et j'aime pas dans le certainement, c'est que certainement et toujours, je trouve qu'il y a une petite nuance. Une petite nuance. Et je vous avais expliqué... ouais. Donc si vous avez écouté mon témoignage par rapport à mon année scolaire, donc épisode 0, j'avais rencontré une personne, enfin un prêtre du coup, qui m'avait fait comprendre que des fois, Dieu peut prévoir quelque chose pour toi. Et puis, en cours de route, se rendre compte que, mais en fait, il y a mieux pour toi. Il y a encore mieux pour toi. Du coup, il va mettre les conditions en place pour que tu sois redirigé vers cette chose qui est meilleure, qui est encore au-dessus de tes attentes. Et c'est comme s'il va faire une nouvelle prophétie pour toi. J'avais pas kiffé! Quand il m'avait dit ça, j'avais tellement pas kiffé parce que je m'étais dit « Mais comment ça ?» Je m'étais dit « Mais comment ça ?» Et c'est là qu'il m'a fait comprendre que quelque chose est certain, c'est sûr, mais il y a une petite nuance avec le fait que quelque chose arrive toujours. Mais dans tous les cas, c'est l'idée que si Dieu a prophétisé quelque chose pour toi, ça arrivera. Et si jamais Dieu a changé de plan pour toi pour te donner des plans qui sont encore meilleurs, ils arriveront. Et donc, si elle tarde, si la prophétie tarde, il faut que tu attendes, il faut que tu t'y accroches. Et je pense que ça, c'est vraiment toute l'idée du livre d'Habacouc. Toute l'idée du livre d'Habacouc, c'est que le juste doit vivre par sa foi. Le juste doit vivre par sa foi. Le juste doit s'accrocher à sa foi. Il faut que tes convictions et que ce en quoi tu crois soient des... C'est-à-dire, il faut que ce soit des convictions assez solides et assez puissantes pour ne pas que tu te décourages, pour que tu continues à faire ce que tu as à faire en y croyant, en te disant que c'est pas parce que c'est dur maintenant que ce sera toujours dur. C'est pas parce que c'est pas évident maintenant, c'est pas parce que ça n'a aucun sens maintenant, c'est pas parce que je suis triste maintenant, que je souffre maintenant, que les gens me font des choses que je ne comprends pas, c'est pas parce qu'il t'arrive des choses maintenant que ces choses-là sont éternelles en fait. Et c'est pas parce qu'il t'arrive des choses maintenant que les jours qui vont venir ne seront pas meilleurs. Et les jours qui vont venir, on n'est pas forcément sur des jours de dans un jour, dans deux semaines, dans un mois, mais on est sur le... C'est-à-dire l'action de grâce long terme, en fait. Tu peux souffrir pendant longtemps. Mais déjà, Dieu ne va jamais te mettre face à des choses qui sont au-dessus de tes forces. Même quand tu as l'impression que tu peux pas supporter, en réalité, tu peux. Et tu vas te surprendre à voir que, en fait, les choses qui t'ont fait souffrir t'ont permis d'apprendre ou de gagner. Des choses qui t'ont permis d'apprendre, de grandir, de devenir une meilleure version de toi, si tu sais comment les prendre et comment les accepter. Et c'est dans ce sens-là que, quelles que soient les épreuves que tu vas finir par vivre, ce que Dieu a prévu pour toi, et la prophétie qu'il a déclarée sur ta vie va finir par s'accomplir. Et c'est pour ça que tu dois t'y attacher. C'est pour ça que tu dois l'attendre. Parce qu'elle est fixée en son temps, qui est le meilleur temps pour que ça puisse s'accomplir. Et ça va arriver, en fait. C'est pour ça aussi que, on va dire, c'est compliqué de placer certaines prophéties sur l'échelle du temps. Parce que dans certaines analyses du livre d'Habacouc, on vous explique que ici, la prophétie dont on parle, c'est la venue de Jésus et sa victoire sur le mal. Et ça, à l'époque d'Habacouc, c'est extrêmement dur. En fait, Habacouc lui-même, je pense qu'il n'a pas compris la portée de ce qu'on lui a dit, en fait. C'est pour ça que, heureusement qu'il a écouté Dieu et qu'il a écrit. Parce que très souvent, aussi, Dieu va nous dire des choses et on va penser qu'on comprend. Mais en fait, on n'a pas compris la profondeur du truc. Et il n'y a pas très longtemps, il lisait un texte le dimanche, enfin c'était un texte de l'évangile, je ne sais plus c'était quel dimanche, mais c'était Jacques et Jean qui... Je ne sais plus... Attendez, il faut que je me remémore le chef de truc. Donc ok, du coup, c'est comme Jacques et Jean qui vont expliquer à Dieu que oui, ils voudraient bien que l'un soit à gauche et puis que l'autre à droite. Et Jésus va leur dire que... Ils ne savent pas ce qu'ils demandent, ça déjà c'est un. Et puis ensuite deux, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe qu'il va boire et être baptisé du baptême dans lequel lui il va être baptisé? Et Jacques et Jean vont lui dire oui, on peut, on gère grave. Sauf que non en fait, parce qu'ils n'ont pas réalisé la profondeur de ce qu'ils demandaient, ils n'ont pas réalisé les implications de ce qu'ils demandaient. Et ils ont surtout, et ils croient avoir compris, mais ils ont compris que dalle. Ils n'ont pas compris du tout. Et souvent c'est comme ça. Souvent, on se retrouve à demander certaines choses à Dieu et on a certaines réponses de Dieu et on pense qu'on a compris, mais on n'a rien compris en fait. Pas qu'on n'a rien compris, mais on est un peu à côté de la plaque. On est un peu à côté de la plaque et c'est pour ça que prendre du recul sur toutes les paroles de Dieu et essayer de les méditer et de les analyser, ça fait vraiment la différence. Mais ça fait vraiment la différence. Enfin bon, pour revenir du coup à cette histoire d'Habacouc, le verset 4 dit... Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Donc ça, c'est... Il y a des versions, en fait, si son âme est enflée d'orgueil. Son âme est pleine d'orgueil. Elle n'est pas droite en lui. Et je pense que là, c'est le moment où on comprend, en fait, que la promesse... dont... Parce que du coup, la prophétie, c'est une promesse. Comme toujours, d'ailleurs. Donc, la promesse dont il vient d'être question, en fait, c'est une vérité qui est entièrement étrangère aux orgueilleux. C'est une vérité qui est entièrement étrangère aux orgueilleux, aux personnes qui manquent de droiture, et donc sans doute aux Chaldéens qui sont ici l'ennemi. Mais en fait, c'est quelque chose qui est applicable à toute âme qui se trouve dans les mêmes conditions que lui. Donc, toute âme qui est orgueilleuse, qui est pas droite. Parce que finalement, il faut se rappeler que l'orgueil de l'homme est incapable de comprendre les pensées de Dieu. L'orgueil de l'homme est incapable de comprendre les pensées de Dieu. Et du coup, les pensées de Dieu ne sont révélées qu'aux hommes de la foi. Parce que la foi seule représente les choses que l'on espère et est la conviction des choses que l'on ne voit pas. Et c'est vraiment ça en fait. Parce que des fois, sans s'en rendre compte, on se croit... On peut être orgueilleux sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir une telle confiance en elles que ça va un peu friser l'orgueil. Parce qu'elles vont se dire... Je saurais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment ça, en fait, du coup. Les pensées de Dieu ne peuvent être révélées et acceptées qu'aux hommes de foi. Parce que, comme je vous ai dit, la foi, c'est une profonde conviction. Et c'est seulement la foi qui est capable de rendre présentes les choses que l'on espère. Et... c'est la conviction des choses que l'on ne voit pas. Et c'est ainsi que Dieu va ajouter « Mais le juste vivra par sa foi ». Donc là, c'est vraiment pour te montrer qu'une personne qui est en fait orgueilleuse et centrée sur elle-même, elle pourra jamais arriver à un certain stade de la révélation. Elle pourra jamais comprendre certaines choses. Elle pourra jamais capter les paroles de Dieu. Elle pourra juste pas. Mais, à contrario... tu auras le juste, la personne qui veut sincèrement s'accrocher au Seigneur, qui va vivre par sa foi. Parce que effectivement, se tenir sur le poste, Se mettre autour de la tour, veiller, attendre, entendre maintenant la parole de Dieu, écrire la prophétie, comprendre que la prophétie, en fait, elle va arriver à son temps fixé, elle va tarder, donc tu vas devoir l'attendre. Mais dans tous les cas, elle ne va pas mentir, en tout cas, machin, machin, machin. Je suis désolée, mais c'est pour les hommes, c'est pour les gens qui ont la foi. Et tout ça combiné, tu comprends en fait que ça doit être ton quotidien. Tu dois vivre de ça. Tu dois vivre de ta foi. Parce que, effectivement, si tu ne. C'est comme. C'est vraiment comme avec les maths. Si tu as raté une étape du raisonnement, tu auras le faux résultat. Bah, c'est un peu pareil ici. Tu es obligé. Et en tout cas, il faut que tu réunisses certaines conditions pour, en fait, bien recevoir la parole de Dieu. Et les conditions en question qui sont réunies, c'est vraiment des conditions que tu peux réunir si et seulement si tu as la foi. Si et seulement si tu es convaincu de ce que tu fais. Et encore une fois, c'est l'idée selon laquelle la foi, ça s'exprime par des actes, ça s'exprime par des actions. Tu ne peux pas avoir la foi et ne rien faire. Tu vois, tu peux pas attendre, tu peux pas avoir la foi et attendre. Genre en mode, tu es là, tu es assis, tu fais rien, mais les choses vont venir à toi. C'est pas ça la foi. La foi, elle est participative, c'est comme la prière. C'est vraiment quelque chose de participatif. Tu peux pas juste être là et attendre que les choses se passent. En tout cas, c'est vraiment l'idée. Pour moi, c'est toute l'idée du livre d'Habacouc, en fait. Et c'est vraiment l'idée que la prophétie ne peut être comprise que par les personnes justes. Parce que du coup, les personnes justes, ce sont ceux qui ont leur foi et dont la foi dicte l'attitude. Et les justes sont les seuls, en fait, qui comprennent la prophétie et le monde l'ignore. Elle n'est claire que si l'on vit par sa foi et les justes seuls sont capables de vivre ainsi, comme je vous ai dit. Donc, vraiment, c'est le truc... Et je pense que c'est important de souligner le côté de... C'est seulement les justes qui peuvent comprendre, en fait, la prophétie et le monde l'ignore. Parce que le monde n'est pas centré sur Dieu. Le monde n'est pas centré sur la foi. Le monde ne cherche pas à mettre Dieu au devant de toutes leurs actions et à... Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le juste est soutenu par sa foi et c'est d'elle que sa vie se nourrit, en fait. Et le truc, c'est que du coup, ça nous pousse aussi à nous poser la question de est-ce qu'on a la foi ? Parce que finalement, c'est une réponse qui n'est... Je veux dire, c'est une question dont la réponse n'est vraiment pas évidente. Parce que comme je vous ai dit, la foi, ça se manifeste par des actions. Ça se manifeste par des gestes. Ça se manifeste, point. Tu ne peux pas croire avoir la foi et ne rien faire. Sinon, c'est comme si tu as la foi, mais juste un peu, pas trop, comme tu veux, quand tu veux. Alors que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, la doctrine de Paul, l'apôtre Paul, est beaucoup centrée sur le livre d'Habacouc. Et en fait, dans ses lettres, il va insister, du coup, Paul, sur la justice, la foi et la vie. Et c'est une sorte de petite réinterprétation de ce qui a été dit ici dans Habacouc, mais on va pas s'étaler dessus pour ne pas trop se disperser dans les idées. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux va compléter cette citation d'Habacouc d'une manière vraiment remarquable. Parce que le prophète avait dit, donc Habacouc du coup, il avait dit « Voici son âme enflée d'orgueil, n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et Paul va transposer la phrase et va la présenter ainsi « Or, le juste vivra de sa foi, et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc cette seconde partie de la phrase va du coup correspondre au mot « son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui ». Mais tu as le contraste en fait de celui qui se retire et celui qui vit de sa foi. Comme quoi le premier il va périr, il est perdu, et le second il va conserver sa vie. En tout cas bref, autant on peut comprendre que Habacouc il l'applique parce qu'au moment où ça se passe, lui il pense qu'on s'adresse que du coup aux Chaldéens, à leurs ennemis. Autant en le relisant, que ce soit Paul ou même aujourd'hui, on comprend que ça s'adresse à n'importe qui. Hein. Ça s'adresse à n'importe qui correspondrait du coup à ces critères. Ensuite, on va passer à Du verset 5 au verset 20, du coup, donc la fin de ce chapitre, on passe à une sorte d'ensemble de malédictions. Parce qu'il faut clairement appeler un chat un chat. Donc, le verset 5 va dire « Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. » Et en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que là, du coup, on parle du chaldéen. Donc le chaldéen, comme je vous ai dit, c'est l'ennemi, mais avec une lecture beaucoup plus actualisée et beaucoup plus contemporaine, bah, c'est toute personne qui est orgueilleux. C'est toute personne qui est orgueilleux, donc arrogant. On comprend en fait que ce type de personnes-là, les orgueilleux, ils s'enivrent de leur propre importance et de leurs ambitieuses, on va dire, convoitises. C'est-à-dire, c'est le type de personne qui ne peut pas se contenter des succès obtenus. C'est le type de personne qui n'est jamais rassasiée. Le type de personne qui se fait centre de tout, des nations et des peuples. Donc, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, on sait que Dieu va les juger. De toute façon, on sait que Dieu va les juger. Mais avant tout, du coup, du verset 6 au verset 20, on va voir tous ensemble la malédiction qui va tomber sur lui de la bouche de tous ceux qui l'ont opprimé. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez des versets, mais comme je l'ai lu du coup en début d'épisode, on comprend que ceux à qui, que en fait dans la vie, tout est perpétuel rojo, voilà, tout se paye. Parce que vraiment, c'est un peu l'idée de ce que tu as fait aux autres, faut pas croire que tu as fait et puis genre ça va rester comme ça et puis rien va se passer en fait. Et du coup ça, c'est un rappel qui est très courant et qui n'a pas besoin d'être développé. Mais souvent, ouais en fait c'est juste ça. Parce que je m'arrêtais à vouloir expliquer mais en fait y a rien à expliquer. Tout se paye en fait. Les maux que tu fais subir aux autres personnes te seront retournés tôt ou tard. Voilà. Et même ça, même des personnes qui ne sont pas croyantes croient en ça, pour vous dire. Donc, ouais. Et en fait, du verset 6 à 20, il y a des analystes qui vous disent que c'est carrément un chant. Parce que quand tu observes bien, c'est un poème. C'est vraiment un poème. Il est composé de 5 strophes. Il est composé de 5 strophes. Donc, les strophes, c'est les paragraphes des poésies. Donc, chaque strophe a 3 versets, sauf la 5e, du coup, qui s'écarte légèrement de cette règle. Voilà, et ça commence, je crois, attendez, bref, donc on va aller pour essayer d'analyser, éviter que cet épisode fasse une heure, du coup, voilà, en fonction des versions, du verset 6 au verset, du coup au verset 20, on observe, comme je vous ai dit, les 5 strophes qui commencent chacune par malheur, et en fait, là, du verset 6 à 8, le premier malheur est prononcé sur celui qui accumule le bien des autres, un bien qui ne lui appartient pas. Il se charge d'un fardeau de gage contre ses prêts usuaires. Si... Ouais, c'est ce qu'ils ont dit en fait. Le jusqu'à quand qui est répété ici, c'est vraiment un parallèle avec le verset 2 du premier chapitre d'Habacouc. Et c'est vraiment le jusqu'à quand des nations, c'est le cri de la foi. Et par la foi, du coup, Habacouc a appris à patienter, il sait que la vision ne mentira pas, mais les nations qui seront épargnées devront aussi attendre la réalisation de cette espérance. Donc, voilà. En continuant, on a « Comme un voleur assailli par les chiens, il sera mordu par les nations et deviendra leur proie à leur tour. » Donc, ce que tu as fait aux autres, on va te faire aussi. Voilà. Et le verset 8, c'est la conclusion et la confirmation de tout ce qui a précédé. Donc c'est vraiment ça. Si on prend la deuxième strophe, donc « Malheur à qui fait un gain inique pour sa maison afin de placer haut son nid pour échapper à la main du malheur. » Bref, les versets 9 à 11. On a que, en fait, l'ennemi est accusé ici de faire un gain injuste pour se bâtir une maison stable qui n'est pas à craindre l'adversité. Donc on peut se dire que de cette façon, en fait, il voudrait conjurer tout malheur. Alors que c'est comme ça même que le malheur va l'atteindre en fait. Et ça, c'est un schéma qu'on a déjà vu en fait. Des personnes qui viennent violer le territoire des autres nations pour s'en emparer, pour s'agrandir, puis fonder la grandeur de sa propre maison sur ce qu'on a extorqué aux autres. On a déjà vu ça. Mais en fait, si on regarde bien, on voit que tous ces dessins, si qui ont été conçus avec, ils ont été conçus si laborieusement, ils n'aboutissent pas en fin de compte. Ils n'aboutissent qu'en fin de compte à couvrir de honte la maison que les princes tenaient à élever si haut. On voit ça les Napoléons, on voit ça avec les empereurs, on a vu comment Napoléon a fini ici. On a vu comment l'empire napoléonien, parce que c'était le même principe, comment l'empire napoléonien est tombé aussi grand et aussi truc qu'il était. Et d'autre part, en fait, jamais l'homme de foi ne songe à agrandir sa maison. Parce que pour l'homme de foi, son bonheur et sa gloire sont d'accumuler, comme, on va dire comme David, les matériaux qui vont établir la maison de Dieu. Voilà, c'est... j'ai l'impression que dans cet épisode, je me suis beaucoup répétée et j'ai fait beaucoup d'apartés. Enfin bon, du coup, la troisième strophe nous rappelle un peu que... Enfin moi, en tout cas, l'idée que ce que j'ai compris dedans, c'est que vraiment... La gloire de l'Éternel sera connue du monde entier et va remplir le monde entier. Et le mal sera comme noyé dans les profondeurs de la mer. Et là, on peut se dire que c'est un grand parallèle avec le règne glorieux millénaire du Christ, qui est décrit d'une manière si détaillée par le prophète Ésaïe, parce que Ésaïe aussi, waouh, quel livre! Genre vraiment, Ésaïe, quand tu t'arrêtes un peu sur le livre, c'est vraiment extraordinaire parce que tu as l'impression qu'il a juste vu Jésus, en fait. Ensuite, concernant la quatrième strophe, donc la quatrième strophe, c'est « Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, à toi qui... » Excusez-moi. « À toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Là, on est vraiment dans la débauche. On est vraiment dans la débauche des orgueilleux là, qui va caractériser les Chaldéens. Mais en fait, encore une fois, comme je vous ai dit, les Chaldéens à l'époque, aujourd'hui, toute personne qui correspond à ce caractère. Et en fait, on comprend que toute cette corruption et toute cette débauche va s'accompagner de violence, parce que quelque part, tous les vices se sont toujours aidés et complétés mutuellement parmi les hommes qui sont maintenant réunis en société. Et le truc, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être tiré vers le bas que d'être tiré vers le haut. Dans tous les cas, la gloire de l'homme va couvrir la terre, mais la violence de l'homme ne sera pas oubliée. La violence de l'homme ne sera pas oubliée. Elle va retomber sur lui et va le couvrir. Parce que la violence, dans tous les cas, répondra à la violence. Voilà. Et puis enfin, du coup, la cinquième strophe qui est différente un peu des autres, parce qu'elle ne commence pas par, elle commence pas directement par malheur à machin, mais en même temps c'est compréhensible, parce que là on n'est plus contre les nations, on n'est plus contre le peuple de Dieu, on n'est plus contre une cité, on n'est plus contre la construction des villes, etc. On est contre, en fait c'est bizarre à dire, donc je cherche une autre façon de le dire, mais on est contre le fait que ces personnes ait voulu se créer un nouveau dieu. On est contre le fait que tu aies fait face à... Il y a des personnes qui ont des dieux mensongers, qui ont créé en fait des images de bois et de fer, d'or et d'argent, pour qui... Voilà, c'est leur dieu qui est là. Et en fait, on va dire, je pense que c'est vraiment la cause capitale du malheur qui a atteint en fait les Chaldéens. C'est vraiment le fait que, certes, du fait de leur orgueil, ils ont fait plein de bêtises qui étaient longues à énumérer, mais c'est surtout que du fait de leur orgueil, en fait, elles ont voulu s'éloigner de Dieu et elles ont voulu finalement se considérer comme leur propre Dieu. Et ça, ça a été dit au chapitre 1, et c'est un peu plus répété et amplifié ici, et on comprend que c'est vraiment ça l'élément déclencheur de la destruction définitive. Parce que, effectivement, quand tu t'éloignes de Dieu, tu ne peux pas... Je sais pas comment t'expliquer, mais je peux pas penser que ça va bien se finir, en fait. Tu ne peux pas être auto-centré, enfin, centré sur ta propre personne, comme ça, et penser que ça va passer crème. Non ! En tout cas, Le verset, enfin le chapitre du coup, et la cinquième strophe se termine avec « L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ça rappelle vraiment la toute-puissance de Dieu, en fait. Dieu est assis sur son trône dans son temple. Il n'est pas... Oh ! C'est pas votre camarade, en fait. Donc, vraiment... Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et je pense que je l'ai beaucoup mieux dit et agencé. Voilà, le moment où je... Voilà. Que dans l'épisode précédent. Mais j'attends toujours vos commentaires. Et du coup, je pense que je vais vous laisser avec ça. Je vais vous laisser avec toutes ces informations. Mais du coup, vraiment... Accrochez-vous à votre foi, en fait. Parce que votre foi ne vous trompera jamais. La foi ne va jamais vous tromper. Donc, c'est vraiment une valeur sûre à laquelle s'accrocher. Vous ne regretterez jamais de vous être accroché à votre foi. Même quand ce sera dur. Même quand des fois, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait. Je vous assure qu'à la fin, avec beaucoup de recul, quel que soit le temps que ça va prendre, vous n'aurez jamais eu tort de vous être accroché à votre foi. Voilà. C'est le message du jour. Si vous voulez retenir un seul truc de ces 15 minutes, pour retenir ça, en fait. Et du coup, moi, je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 3 du livre d'Habacouc. Et pendant ce temps, ça va me laisser un peu de temps pour réfléchir à quelle suite est-ce qu'on va donner au podcast, parce que j'ai plein d'idées. Mais si vous avez des idées à me proposer, bah je suis très 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 preneuse. Voilà, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, parce que je pense que je vais y faire un petit sondage dans pas longtemps. Et ce serait bien de pouvoir avoir l'avis de tout le monde, de tous les auditeurs de Soul for Soul. Du coup, l'Instagram sera disponible en bio, voilà, dans le petit texte, qui sera un peu présentatif de l'audio, comme d'habitude avec tous les épisodes. Et là, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse, je vous fais plein de bisous et passez une excellente semaine. You want the smoke, I want who's behind it. You gotta seek, and you shall find it. Yes, I got beef, I'm on a diet. But I be fighting while closing my eyelids. Used to be scared every time I was flying. Now I'm laid back because I know the pilot. Ooh.